Donc d'avoir à faire autre chose, toujours sur on est toujours sur le premier passouk de Aseret HaDibrot, et le Midrash, il avait pris comme angle d'attaque le passouk de Arié Shahag, le lion a rugi, qui est-ce qui ne serait pas effrayé? Qu'est-ce qui n'aura pas de crainte? Alors, on reprend ici. Donc, c'est la page 344 en anglais. Toujours chez Niyoud Dalet. D'abord, Arié Shahag, le lion a rugi. Et donc, a priori, le Midrash est en train d'entendre le pasuk Anochi Hashem Elokecha.
C'est le Dvar Acher, c'est la onzième ligne.
Comme un rugissement du lion. Ore, Bet HaMikdash nikra Arié. Le Bet HaMikdash est appelé lion. C'est Neymar, Oi Ariel, Ariel. Ariel, c'est Ari, oui. Malchut be David nikra Arié. La royauté de David s'appelle aussi Arié, comme c'est marqué dans le pasuk. Ma imcha levia. Ta mère, lionceau, ben arayot ravtsa. Elle était couchée parmi les lions. Israël nikra Arié. Israël t'appelait Arié, c'est marqué Gour Arié Yehuda. Nebuchadnezzar nikra Arié, shenemar ala Arié misubcho, ve'echeriv bet hamikdash, ve'natal malchut bet David, ve'egla et Israël. Donc lui aussi, il est appelé Arié, c'est le Arié qui est monté de son allié. J'ai cherché dans la Bible en français comment on traduisait subcho. De son allié. C'est un nom que j'utilise tous les jours au petit déjeuner. D'accord. Ça s'appelle allié. H-A-D-I-E-R. Mais subro, en hébreu. En hébreu, ça s'appelle allié. Un lion s'est élancé de son allié. C'est lancé de son territoire, de là où il était, là où il réside, quoi. Vous ne savez pas ce que c'est allié? Moi non plus. Ve'echeriv, il a détruit le Beth Amigdash et il a pris la royauté de David et il a exilé Israël. Vakadosh Baruch Hu Omer, Hashem dit, Aye Meon Arayot, où est la résidence des lions qui ont pris, ils ont fait ma base sur eux, Echan Hem Banai, puisque c'est les lions qui ont pris mes enfants, où est-ce qu'ils sont les lions? Où est-ce qu'ils résident les lions? Où est-ce qu'ils traînent leurs victimes, en fait? Beota Sha'a, Sha'og Yishag Al Naveu. À ce moment-là, il va justement rugir sur sa résidence, sur son Beth Amikdash. Voilà ce nouveau paragraphe, ici. Anochi Hashem Elokecha, c'est un rugissement. C'est comme si à ce moment-là, donc, Hashem rugit, il rugit, mais pourquoi? Sur quoi? Alors le Marzou dit, Oi Ariel, donc on entend, sauf d'abord, c'est Kiryat Chana David, bon il apporte les sources, Maimcha Alvia et le début du verset, Vata sa kina al nesie Israël. Au début, il dit maintenant, élève des pleurs, une kina sur les princes d'Israël. Et c'est une preuve que tout Israël est appelé Arayot. Donc en fait, on a l'impression que tel qu'il est décrit ici, on est dans un monde de lions. D'accord, tout est lion. Klal Israël est un lion, le Nebuchadnezzar c'est un lion, le Beth Amikdash c'est un lion. Tout est lion en fait. Ben, si tout est des lions. Kadosh Baruch Hu aussi est présenté comme un lion. Donc Hachem demande où est le Mahon de Arayot, puisque l'Arié il est allé, il est retourné là-bas. Et là, il dit, le Marzou, il dit que ça inclut tous les Arayot. Chez Zachar, Mahon Arayot, al Beth Amikdash, Asher Alach Ariel Ze, Kadosh Baruch Hu, la vie, Ariel Ze, Kadosh Baruch Hu, la vie, ça porte sur le lionceau, ça porte sur Malchut Beth David, Gour Ariel, c'est tout le clan Israël, on le voit dans le Navi Nahum, qui parle même de Ninveh. Parle donc du fait que le Beth Amikdash va être détruit. Là-dessus, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être, regardons d'abord ce que dit le Etz Yosef. Donc tout est effectivement lion. Bon, alors ils disent que sur la prophétie, elle veut dire que la ville de Ninveh n'a pas de raison d'être certaine. C'est la grande ville, la ville puissante, mais en fait, elle n'a pas raison de penser qu'elle était imprenable, etc., qu'elle descendrait jamais de sa grandeur. En fait, ce Midrash, finalement, qu'est-ce qu'il vient nous dire sur ce premier verset du matin de Torah, qu'Hachem, que cette première parole est une parole de. C'est un rugissement effrayant, etc. Mais finalement, qui est-ce qui a été effrayé? Est-ce que le verset a l'air de dire. Tout le monde doit être effrayé par ce rugissement. Mais à la limite, Nebuchadnezzar, il n'a pas été tellement effrayé, puisqu'il a fait la guerre, il a battu la royauté de. Il a pris le royaume de David, en fait, le Malchut de David, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit. Pourquoi et comment est-ce qu'on dit. Qui est-ce qui ne serait pas effrayé? Ben là, ils n'ont pas l'air tellement effrayés. C'est intéressant, la fin du texte dit que HaKadosh Baruch Hu Omer Aye Me'on Arayot, où est la résidence des lions, où sont mes enfants? Et on dit à ce moment-là, il rugit pas sur les enfants, il rugit Al Naveu, il rugit sur le Beth Amikdash, sur sa résidence. Naveu, c'est sa résidence, sur le Beth Amikdash. Pardon? Non, on a l'impression que le verset de Nahum, de la prophétie, ça parle de la destruction. Il annonce la destruction, il annonce que Hachem va s'intéresser, etc. Et il va rugir sur... Mais c'est un rugissement dont visiblement le Midrash veut le mettre en rapport avec le Anochi Hachem Elokecha. Puisqu'on est, c'est là-dedans qu'on est. On est en train de commenter Anochi Hachem Elokecha. C'est que Hachem dit, moi je t'ai fait sortir d'Égypte et je suis Elokecha. Ça voudrait donc dire ici que ce rugissement, ça annonce que quoi qu'il arrive, même si les lions se déchaînent et que tous les lions d'Israël sont pris par le lion Nebuchadnezzar qui en fait les exile, etc. Hachem dit, mais Anochi Hachem Elokecha. C'est-à-dire, c'est pas seulement au Sinaï, c'est devenu un pasouk de la Torah maintenant. Donc nous, on lit toujours ce pasouk de la Torah. Sache qu'Anochi Hachem Elokecha, même dans ces situations-là, mais dans ces situations. Et alors, ce qui est remarquable, c'est ce que je vous faisais remarquer ici, c'est que, semble-t-il, il demande où sont Aye et Banaï, où sont mes enfants, mais le rugissement, il est Al Naveu. Comment se fait-il qu'il rugisse sur le Beth Amikdash et qu'il ne rugisse pas sur le fait qu'on lui a pris ses enfants, en fait, et que les Bnei Israël sont en exil? Il est détruit, mais les Bnei Israël sont quasiment détruits puisqu'ils sont en galoute. Ils n'ont pas besoin d'être là, oui, mais... Non, c'est ça la remarque que je voulais faire, c'est-à-dire que, semble-t-il, l'exil en lui-même n'est pas encore une raison pour rugir. Le rugissement, il est sur quelque chose qui n'existe plus, à savoir le Beth Amikdash. Il rugit seulement sur la destruction du Beth Amikdash. Pardon? Mais seulement le Beth Amikdash, en fait, c'est une construction, c'est même une construction en pierre, peu importe, mais cette construction-là, elle n'a pas de sens si les Bnei Israël ne sont pas là pour le faire marcher. Donc pourquoi il rugit sur sa résidence? Je crois qu'il rugit sur sa résidence parce que la destruction du Beth Amikdash, elle est, si vous voulez, c'est ça qui est le grand problème. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résidence d'Hachem dans le monde.
Oui, mais il est détruit parce que Hachem passait son tombeau sur les pierres au lieu de les passer sur les
pierres. Oui, d'accord.
C'est vrai.
Oui.
Alors, vaut mieux qu'il rugisse sur ça.
Oui, mais donc, et maintenant, il aurait dû dire, il aurait. Les Bnei Israël, malgré tout, ils sont en galoute maintenant avec ça.
Oui, non.
D'accord, c'est... Pardon?
Oui, non.
Comment? Ils sont en galoute, évidemment, ils sont en galoute.
Oui, mais c'est pas, il n'y a pas...
On est même dans le galoute de Babel, c'est-à-dire que...
Oui, mais c'est pas marqué aussi dans la Torah. Ils vont faire un village dans ton cœur, j'habite à la...
Au contraire. Tu construiras un Mishkan et je veux résider dans le cœur de chacun.
Ouais.
Mais... Justement, si on détruit le... Il rugit sur le fait que le Beth Amikdash ayant été détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus de résidence d'Hachem dans le monde. Et la résidence d'Hachem dans le cœur des Bnei Israël, elle n'est plus tellement évidente puisqu'ils sont, en galoute, ils sont au service de Nebuchadnezzar, etc. Donc finalement, ce qui est visible, c'est que la résidence divine n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Anochi Hashem Elokecha? Ça veut dire, d'où est-ce que tu sais que Hashem rugit sur le Beth Amikdash, sur la destruction du Beth Amikdash? C'est ça que c'est avec ça que je veux éclairer Anochi Hashem Elokecha. C'est quand Hashem dit au clan d'Israël, je suis Elokecha, ça veut dire, je suis Elokecha, c'est moi qui, je veux résider, je veux être ton Dieu, je veux résider parmi les bnei Israël, je veux résider sur terre, et c'est vous qui êtes en charge de me faire résider sur terre. Et par conséquent, Hashem dit, il faut prendre comme un rugissement, et comme une colère, comme quelque chose qui devrait effrayer. Ça veut dire ça aussi, ce qui est effrayant, si vous voulez, que ça aussi, c'est-à-dire cette destruction du Beth Amikdash, ça aussi, c'est un rugissement, ça aussi, c'est inclus dans Anochi Hashem Elokecha. Si tu ne te conduis pas en tenant compte que de ma Torah, Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire j'ai tous les droits sur toi. Je t'ai fait sortir de Mitzrayim. Bon, ça veut dire que tu ne peux pas, si tu désobéis, tout ce qui va se passer ici, ça dépend de ta conduite, et mais tout ça c'est une manifestation d'Anochi Hashem Elokecha. Je manifeste que je suis Hashem Elokecha, c'est pour ça qu'il t'arrive ce qui t'arrive, pour ta conduite. Ça veut dire que, et ça veut aussi dire, on peut utiliser ce que tu as dit, qu'effectivement, j'ai fait en sorte, ici c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai fait en sorte qu'il y ait un Beth Amikdash pour que je n'ai pas besoin de détruire le clan d'Israël. Quand le clan d'Israël se conduira mal, je détruirai le Beth Amikdash. Je les enverrai en galoute. Je n'aurai pas besoin de les détruire. Si on n'avait pas c'était la faute, l'erreur de Aaron. N'est-ce pas? Pourquoi Aaron a cédé? Pourquoi est-ce qu'il a fait le veau d'or? Parce qu'il a pensé, comme c'est marqué, que les bnei Israël, justement, à ce moment-là, ils avaient détruit... Ils avaient... Non, c'est pas ça. Ouais. Les bnei Israël ils avaient tué Cohen Venavi, ce qui est écrit dans les keynotes, dans Echa. Et à ce moment-là, Hashem a fait tomber sa colère, effectivement. Il a fait tomber sa colère sur la Etzim va la Avanim, sur le Beth Amikdash. Il a détruit le Beth Amikdash au lieu de détruire le Klal Israël. Et Aaron s'était dit, mais si, puisqu'ils ont... Je vois qu'ils sont prêts à me tuer. Si je m'oppose au veau d'or, enfin, je ne leur fais pas ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont déjà tué Hur, le fils de Myriam, moi aussi ils vont me tuer. Et moi je suis à la fois Cohen et Navi. Et il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc s'ils tuent Cohen et Navi, ça veut dire, s'il n'y a plus de Cohen, il n'y a plus d'Avodat Hashem. Et si on tue le Navi, ça veut dire on n'écoute plus la parole d'Hashem. Donc là l'Israël n'a plus de raison d'exister. Quoi? Il n'a pas de raison d'exister avec l'Israël. Lui, non, eux, ils ne sont pas Nevim. Ils ne sont pas Cohen Venavi. Cohen Venavi, il n'y a que lui. Non, il n'est pas Navi. Il est Navi, mais il n'est pas Cohen. Cohen Venavi, c'est lui. Et Moshe n'était pas là. Moshe, il est. C'est ça le problème. Moshe n'est pas. Oui.
Pourquoi vous voulez que ce soit à la fois Cohen et Navi?
Il est Cohen Venavi. C'est écrit comme ça dans le Passouk. Ils ont tué Cohen Benavi, ils ont tué le Cohen Gadol, ils ont tué le Navi. Juste avant la destruction. Et Aaron s'est trompé, il s'est dit, s'ils me tuent moi, ils auront tué Cohen Benavi. Donc le clan Israël n'a plus de raison d'exister, puisque ça veut dire tu ne veux plus écouter la parole d'Hachem, et tu ne veux plus faire la voix d'Hachem. Donc pourquoi le clan Israël, pour quelle raison est-ce qu'il existerait? Et donc s'ils me tuent, donc ils manifestent cela, et à ce moment-là, comme on n'a pas le paratonnerre que représente le Beth Amikdash, d'accord, qui attirerait lui la foudre, bon, qui ferait que, ben voilà, c'est, au lieu de tuer le clan Israël, détruire le clan Israël, eh bien, je vais détruire le Beth Amikdash, ça n'existe pas. Donc il a cru, il s'est dit, mais dans ce cas-là, les Israël, ils vont être détruits. Donc il vaut mieux que je leur fasse faire une faute, même si c'est une faute importante. Cette faute-là, elle sera sanctionnée comme telle, gravement, tout ce qu'on veut, mais ils échapperont à la destruction totale. Donc ici, ce que Hachem veut dire, ici, il crie sur la destruction du Beth Amikdash, et d'après, si on lit comme ça, il crie sur la destruction, il rugit sur la destruction du Beth Amikdash, qui est une forme de, c'est un rugissement sur, normalement j'aurais dû détruire les Bnei Israël. C'est un peu comme l'arc-en-ciel. Normalement, j'aurais dû envoyer le... Sachez que normalement, j'aurais dû envoyer le Maboul maintenant. Mais je ne l'envoie pas parce que j'ai fait une alliance avec vous que je n'en enverrai plus. Mais sachez que vous êtes dans une situation où vous méritez la destruction du Maboul.
Pourquoi Aaron, il a mal donné
Il a mal... Pourquoi... En quoi c'était faux ou bien En quoi c'était faux, on a vu. Parce que c'est pas le problème des hommes de faire réussir le plan d'Hachem. Quel est le problème? S'il détruit le camp d'Israël, il n'y a plus de... Tout le plan d'Hachem est par terre. Donc Hachem se débrouille. C'est pas à toi. Toi, tu dois pas... On n'a pas le droit, si on veut transgresser les halachot, pour sauver le plan divin. C'est pas notre boulot. C'est en ça que c'était faux.
Il y a un autre aspect sur lequel je m'interrogeais justement à propos de si Allah et
Ils sont alliés.
On a un peu l'impression qu'un rugissement, il n'a pas besoin. En fait, c'est jamais dans un lieu. C'est fait pour retentir justement partout dans l'espace. C'est-à-dire comme si, bon, les Bnei Israël sont en galoute, le temple est détruit, et ben le rugissement qui est à Hachem Elokecha va prendre justement, va occuper tout l'espace et va résonner au point que les autres vont rugir en écho de ce rugissement.
Oui, c'est marqué. Il est sorti de son allié et il rugit.
C'est ça, il n'a pas besoin, justement comme s'il n'avait pas besoin d'un lieu, il enfermerait.
Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus.
Et ça va faire résonance et écho dans, partout. Quoi.
Donc,
c'est une zone dense en puissance.
Pardon ?
C'est une zone dense en puissance.
T'as consulté Internet ? Non, j'ai oublié, c'était ça. Anochi Hashem Elokecha, ça a été dit au Sinaï. Et au Sinaï, ce n'était pas une enceinte fermée. C'était au contraire. Il y a des midrashim qui disent que tout le monde a entendu. Hashem s'adresse au Bnei Israël. Ensuite, on a construit le Beth Amikdash, une résidence. Mais justement, en construisant une résidence, on a, d'une certaine façon, limité l'écho de la parole divine. Maintenant, la destruction du Beth Amikdash, elle restitue tout l'espace à cette parole. La parole, après la destruction, elle se retrouve dans la situation du rugissement de qu'était la parole divine au Sinaï. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait se dire, Bon, alors, c'est ça le problème, c'est que, comme je t'ai dit que je suis Hachem Elokecha, alors tu étais en droit, et tu es, c'est même ce que, tu as tout à fait le droit de construire une résidence, je t'ai donné la possibilité de construire une résidence, mais à la limite, pour que l'écho ne soit pas confiné dans cette résidence, il faut qu'il soit dans le cœur de chacun. Si chacun se dans le cœur, ça veut dire si chacun se conduit comme il faut, alors c'est comme si cette parole, cette fois-ci, elle était complètement entendue dans le monde. Parce que qu'est-ce qu'on veut de plus? Le but, c'est pas que les gens entendent seulement. C'est que les gens craignent Hachem. Et s'ils craignent Hachem, si dans leur conduite on voit qu'ils craignent Hachem, ben c'est parfait. À partir du moment où on se conduit pas bien, alors le Beit HaMikdash devient une chose pratiquement négative, puisqu'elle empêche le rayonnement. C'est pas que la voix ne veut pas s'entendre du Beit HaMikdash, mais l'idée du confinement que représente le Beit HaMikdash, c'est quelque chose de négatif. Puisque, et du coup, à la limite, pour le coup, Hachem va rugir sur sa résidence, et on peut presque dire, cette résidence-là, je suis presque heureux qu'elle ne soit plus là. Il rugit, parce que maintenant, je peux de nouveau, ma parole, elle redevient telle qu'elle était au Sinaï. Et donc, il faut entendre que c'est un privilège qui a été donné au Bnei Israël de devenir le monde. Les Bnei Israël deviennent le monde, puisque c'est maintenant en eux. Ils sont l'espace, n'est-ce pas? Ils sont l'espace du Sinaï. Non, c'est... Ouais. We are the world. Donc, c'est ça l'idée, si vous voulez, c'est que je vous ai donné un privilège, Elokecha. Maintenant, si tu ne joues pas le jeu, alors je me reprends, et pour que, effectivement, on retrouve, pour vous remplacer, il faut détruire le Beit HaMikdash pour que la parole puisse de nouveau s'entendre d'une certaine façon. Alors, ce qui est. Là, il y a le rugissement. La question qu'on peut poser, c'est est-ce que depuis que le Beit HaMikdash est détruit, on entend la parole d'Hachem comme au Sinaï? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça? A priori, c'est...
Par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous voulez dire, parce que j'ai entendu quelque chose qui ressemble, c'est que justement...
C'est vraiment intéressant parce que tu as entendu quelque chose qui ressemble, c'est sympa.
Non,
t'en as encore beaucoup comme ça?
Ça m'a fait du bien. Parce que quand j'avais entendu un rabbi il y a quelques années, dire que, en fait, le rôle justement des ministres dans cette dialogue, c'était que la chair fasse le tour du monde. Il m'a dit que ce que vous dire, que la parole... Hachem vient à être reconnu en tant que tout le monde, et justement c'est ça, c'est une fois que Hachem a appris le tout le monde, par le fait que les ministères vont occuper le monde, et bien à ce moment-là, on prend
donc ça, on pourrait comprendre aussi que, effectivement, donc, il faut que Yehuda soit Lyon, que. Prennent l'écho de ce rugissement.
On poursuit le. Ouais.
Mais ce qui ne colle pas très bien dans le paysage, c'est devenu le Bouchard Netzar.
Oui, on l'a remplacé. C'est lui qui est devenu le lion. Hachem lui a laissé jouer le rôle du lion, puisqu'Israël ne joue pas. Il faut un lion pour remplacer le lion, et c'est un lion négatif. Penser à cette histoire du tour du monde. Ma femme m'a montré sur Yeshua World, il y a les photos de le Rosh Yeshiva de Lucerne, Rav Koppelman, il a 104 ans. 104 ans aujourd'hui. Enfin, il a plus que 104 ans aujourd'hui, il a entre 104 et 105. Et c'est pendant longtemps, il voyageait pas tellement, il voyageait surtout en Amérique parce qu'il avait des élèves en Amérique. Et c'est lui qui est, c'est d'après ses notes à lui, qu'on a édité l'essentiel des shiurim de Rabbi Shimon Shkop, qui était un des grands Rosh Yeshiva, le grand Rosh Yeshiva d'avant la guerre. Et il y a quelques années, il est allé voir au Canada sa chavruta de Grodno, il était chez Rabbi Shimon, et ils ont commencé à discuter sur un shiur de Rabbi Shimon, c'est vrai. Puis entre-temps, il a voyagé aux États-Unis, quelqu'un l'a fait venir aux États-Unis pour un mariage, en Eretz Israël. Et là maintenant, à 104 ans, il est allé en Australie. Je ne sais pas qui l'a fait venir là-bas pour un mariage, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il a accepté d'aller. Donc il amène la Torah de Rabbi Shimon dans le monde entier. Quoi. Il a fait le tour du monde, il a les antipodes. 104 ans, Bihainara, c'est... Ouais, il se bouge. Et il est encore... il mène tout son monde à la baguette. On m'a dit quand il était à Lucerne, quand les Bachurim ne faisaient pas ce qu'il fallait, qu'ils décidaient, Bachur qui était parti, par exemple, et qui n'est pas revenu à l'heure où il avait décidé, il avait dit qu'il allait revenir, etc. Quand il arrive à la yeshiva, le yeshiva est assis sur la valise du Bachur, il lui a fait sa valise, tu peux repartir, tout de suite, terminus. Il était très sévère. Mais ça conserve, visiblement. Davar acher, Arié Shahag, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Mekablim Atem Aseret HaDibrot. C'est une question. Est-ce que vous acceptez la Aseret HaDibrot Amrou lo hen? Ils ont dit oui. Shenemar, allez Asor ve allez Navel. Alay le kabel Yud. Asor c'est Yud, oui, c'est la. Allez Asor, c'est la harpe à 10 cordes. Asor c'est 10. Alay le kabel Yud. Aseret HaDibrot donc. Donc. Alors que Umaou Hashem Elokim diber milo inave. Comment est-ce qu'on entend la suite du verset qui dit Hashem Elokim a parlé, qui ne prophétisera pas, qui ne répercutera pas sa parole en fait. Amar Rabbi Abaou, b'shem Rabbi Yochanan, que Shenatan Hakadosh Baruch Hu et la Torah, au moment du don de la Torah, Tzipor L'otzavar, un oiseau n'a pas sifflé, off l'oparar, un volatile n'a pas volé, shor l'oga'a, le taureau n'a même pas regurgité, ou comment est-ce qu'il dit, ofanim l'oafu, les anges ofanim n'ont pas volé, srafim l'oamru kadosh kadosh, les Sraphim, les Séraphins n'ont pas proclamé la sainteté d'Hachem. Ayam lo nizdazea, la mer n'a pas bougé. Abriot lo dibrou, les gens n'ont pas parlé. Et là, haolam shotek ou machrish. Le monde était silencieux, complètement muet. Viatsa akol anochi Hachem elokecha. À ce moment-là, la voix est sorti qui a dit Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha. Renu Omer et Advarim Haele Diber Hashem El Kol Kealchem, Kol Gadol Velo Yasaf. Ces paroles-là, dit Moshe Rabbeinu, Hashem les a dites à toutes vos assemblées. C'était une grande voix, un grand kol, Velo Yasaf. Le mot loyasaf, il est ambigu. Certains veulent dire que ça ne s'est pas arrêté, et d'autres veulent dire que ça n'a pas continué. On a le même, c'est le même problème. C'est écrit que quand Yehuda a reconnu que l'enfant de, ou les enfants de Tamar étaient ses enfants à lui. Il avait donc fait Yiboum avec, avec Tamar. Et le pasouk dit, alors il est resté avec elle, il l'a épousé, Veloyasaf, il n'a pas continué. Alors certains veulent dire, bon, c'est tout, il n'a plus eu de rapport avec elle, ou alors le contraire, il n'a plus arrêté d'avoir des rapports avec elle. Elle était devenue vraiment sa femme, et il a continué de vivre avec elle, comme avec son épouse. Parce que le Loyasaf est ambigu. Amar Rab Shimon ben Lakish, Maou Loyasaf. Qu'est-ce que ça veut dire, Loyasaf, justement? Et là, que chez Adam, Kore le Chavero, Yesh le Kolo, Bat Kol. Quand quelqu'un appelle son ami, sa voix a un écho. Enfin, elle a un Bat Kol. Il a son Kol et il a un Bat Kol. Va Kol Shaya, Yotse, Mipia, Kodosh Baruchu, Loya le Kolo, Bat Kol. Mais la voix de Kachem a émise, ici, elle n'avait pas de bat kol, et aucun écho. Vim tamea ata alzo, et si tu t'étonnes de cela, are Eliyahu kesheba la Carmel, sache que Eliyahu Anavi, lorsqu'il était au Carmel, lorsqu'il a mis au défi les prophètes du Baal, vous savez bien, à ce moment-là, Kines kol akomarim, il avait rassemblé quand tous les prêtres du Baal, va marlaem kirou bekol gadol, criez fort, ki Elohim ou, parce que c'est un Elohim. Masa kadosh baruch hu, idmim kol haolam veishtik haelyonim veatachtonim veya olam tohu vavohu, kilu lo yabriya baolam. Pour qu'on entende, Akadosh Baruch a fait en sorte qu'il n'y avait aucun bruit dans le monde. Mais le monde était dans l'état de tohu vavohu. Le monde est revenu à son état de chaos initial. Comme s'il n'y avait aucune créature. Attends. Shenemar vein kol vein one vein keshev. Sheim yedaber hem omrim abal ane. Ananou. Pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu qu'on n'entende aucun bruit? Parce que s'il y avait eu le moindre bruit, les prophètes du Baal auraient dit, c'est ça la réponse du Baal. Le Baal nous a répondu. Alachat kama ve kama, kshedibir HaKadosh Baruch Hu al Arsinai, ishtik kol haolam kedei sheyedu abriyot shein chutz mimenu. Alors à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu, justement, il a fait tout taire pour que ce soit bien clair qu'il n'y a rien d'autre que lui. ואמר אנוכי השם אלוקיך ולעתיד לבוא כתיב אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. Et sur le futur il est dit אנוכי, c'est la consolation, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. אנוכי, c'est lui qui va vous consoler. C'est le נחמו נחמי עמי, c'est l'Haftara d'après Tisha B'Av. Pardon? Non, là c'était le contraire. Là-bas, il a fait taire tout le monde. Les prophètes du Baal, oui, c'était les Juifs qui étaient acquis au Baal. Les Juifs idolâtres, il y a peut-être des non-Juifs aussi, ils ont fait peut-être venir des imams d'Arabie Saoudite ou des trucs comme ça. C'est pas toujours les nationaux. Les Iraniens. Donc qu'est-ce que le Midrash dit ici comme dernier élément? C'est-à-dire que Hachem a parlé, il a voulu qu'il soit bien clair que c'est lui qui parle. Les prophètes du Baal, ils auraient utilisé tous les bruits en disant, ça c'est le Baal qui parle. Hachem ici a voulu que ce soit bien clair que c'était lui qui parlait. Donc, il s'est aussi débrouillé que personne, qu'il n'y ait aucun bruit, sauf sa voix. Et donc, l'Oyasaf, ça veut dire qu'il n'y avait même pas d'écho. Pour qu'on voit vraiment, ce l'écho, on aurait pu imaginer que c'est quelqu'un, il y a une autre source de cette voix. D'accord, c'est comme il ne fallait pas qu'il y ait une source quelconque qui produise quoi que ce soit comme bruit, pour qu'on sache bien que c'est le col d'Hachem. Soit sans aucune ambiguïté. Donc il dit Anochi. Alors pourquoi il a. Alors c'est possible que la dernière phrase, c'est simplement une façon de clore ce chapitre sur une consolation. Ce paragraphe 9, oui. C'est ce que dit le Et Yosef. Que dès le Sayem à Parasha Bemilta de Nechmata, Zevi, Mein Anochi de Asigbe, Anochi Anochi Unam. Puisqu'on parlait du Anochi, alors il amène un autre Anochi qui est Anochi de consolation. C'est des équivalents, mais effectivement, pourquoi c'est un Anochi ? Surtout que c'est simplement un Anochi, c'est un i avec un kaf, simplement, au milieu. C'est les mêmes lettres qu'un i, sauf qu'il y a un kaf en plus. Mais je. Évidemment, avec le CAF en plus, c'est 81 en gématria. Qu'est-ce que c'est que 81 ?
C'est 91 moins 10.
Oui. C'est rien de. Pardon ? Le
Souka.
C'est le Souka. Pourquoi ?
Non. Je crois que c'était Shem Avaya et Shem Anouk.
Et 86 et 26. Non. Non, c'est pas. Ça finit pas par 11. Et Souka, pourquoi Souka ?
Non, c'est bon, on relie la galaxie de Souka au Shem Avaya et Shem Anouk.
Ah, enfin, c'est malé. On s'est malé, oui, on s'est plein.
On est
en degré dans justement cette touche, pourquoi ? Parce que les chiens. 81, ça ne fait pas quelque chose de particulier. Enfin, que je ne sais pas ce que ça fait. Plutôt que Annie, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une psikta qui dit que Anochi c'est un mot égyptien, d'origine égyptienne. Pardon ? Qui quoi ? Alors, non, mais là-bas, c'est parce que on dit que si Hachem avait commencé sa première parole avec un mot d'une langue que l'Israël ne connaissait pas, ils auraient été complètement effrayés. Il a fallu dire un mot qui est d'origine égyptienne, donc qui pour ne pas les effrayer. C'est ce que dit cette Moi, je ne l'ai jamais vu, cette psikta. Mais bon, je l'ai entendu de sources dites sûres. Cette histoire, je ne connais pas. Je sais ce qu'on raconte sur Akhenaton, mais... Oui, il y a une histoire comme ça où on dit que la fille de Paro était justement encore une adepte de la fille du nouveau du Paro de l'Égypte, et là, elle était encore une adepte de. Oui. C'est un des pharaons. Non, lui, il était seulement monothéiste. Il n'était pas Mamin Bachem. C'est une idole. Non, mais c'est pas à ça que je fais allusion. La psychta, elle disait justement que il faut parler un langage qui ne soit pas effrayant au premier abord. La leçon est sûrement vraie. Maintenant, est-ce que c'est vrai que faut aussi dire que c'est un mot de la Shana Kodesh qui a passé en égyptien, donc avec lequel il était familiarisé. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai jamais vu le Lachon dans. Comme j'ai jamais vu cette psikta écrite, je ne l'ai pas cette psikta, et je ne sais pas, il y a plusieurs psiktot. C'est les midrashim, midrashi halakha, psikta. Mais je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu, je vous dis, d'une source, a priori sûre. Donc le Midrash dit, ne t'étonne pas qu'Hachem ait supprimé même l'écho, tout écho de sa parole, parce que cette démarche-là, il y a un avis, même les hommes, il y avait cette idée-là qu'il fallait qu'il y a un avis, il a dû demander à Hachem, ou Hachem a fait réussir un avis en faisant taire le monde entier pour que il y a vraiment zéro réponse. Sinon, ils auraient évidemment dit, mais la réponse, c'est celle-là. La réponse, c'est ce sifflet ce sifflotement de cet oiseau-là, c'est ça la réponse du. Et nous, on la connaît, on va l'interpréter, etc. Ça, c'est une explication qu'on peut donner du fait même qu'il y a eu ce silence. C'est pas ce que dit le Midrash, a priori. Le Midrash a l'air d'aller dans l'autre sens, puisqu'il apporte. À moins que vous disiez que c'est pour toute une... Pardon ?
On peut dire l'inverse, c'est ça, avec le Midrash.
Oui, le Midrash pourrait dire... Mais dans l'idée, c'est tout à fait une possibilité, mais le Midrash n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, sauf à dire que ce qu'il faudrait à ce moment-là qu'on interprète autrement la preuve du Carmel. Quand il lui dit « ne t'étonne pas », ça veut dire qu'il y a une possibilité, que l'idolâtrie, elle va faire parler la nature, quoi. Nous, on fait parler la nature. Shamaim Saprin Kvodkel, que les cieux racontent la gloire d'Hachem, etc. Eh bien, eux, ils vont faire parler la nature d'une autre manière en disant, ben voilà, nous, on va interpréter, nous savons interpréter le chant des oiseaux, etc. Mais ça, Shlomo HaMelech, il savait aussi le faire. Et lui, il savait, lui, c'était la Chokhma. Et eux, ils vont dire, ben voilà, l'idole nous a répondu, et nous, on sait ce que ça veut dire. Il a répondu, peut-être.
Je comprends pas comment ils n'ont pas pu interpréter silence.
Mais non, ils ont crié, réponds-nous. Ils répondent par silence, c'est pas une réponse. En tout cas, pour eux, c'était pas une réponse.
Là, ça va se renverser, c'est-à-dire qu'après on aura les situations où une batcole va continuer à ce roulement de la parole d'Hachem, elle va sortir, elle approuve des choses qui ont été produites par Rabin, ou bien la fameuse histoire, la famille des déserts, qui la Torah, c'est ici maintenant.
Justement, c'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est probablement ce qu'a dit le Midrash au début, quand il lui a dit, d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont dit, oui. Alors, est-ce que vous acceptez les Aserat HaDibrot? Ils ont dit oui. Chez Nehemar, allez à Sor, ve allez Navel. Il faut lire, Alay es à Sor. Alay les 10. Sur moi, les 10. Donc on est d'Oresh, le pasouk de Teilim. David HaMelech a dit, comme voulant dire, une fois que j'aurai accepté les 10, Alai Navel. C'est-à-dire, je deviendrai à moi, à mon tour, en quelque sorte, une harpe aussi, ou... Oui, un instrument de musique en fait, et c'est-à-dire je vais prophétiser. Hashem Elokim diber, mi lo inave, tout le monde va prophétiser. Donc, une fois qu'Hashem aura parlé, alors on pourra parler. Sous-entendu, Rabbi Avao lui dit, ça veut dire on ne parlera que quand Hashem aura parlé. Parce que tant qu'Hachem n'a pas parlé, jusqu'à y compris la parole d'Hachem, il y aura un silence complet, un silence total. Pour justement qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est un silence qui est tel que même les anges doivent se taire. Même les anges qui sont là pour proclamer la Kdusha d'Hachem, eux aussi doivent se taire. Ils ne doivent même pas battre des ailes. On veut aucun bruit, aucune manifestation d'aucun ordre. Tout ce qui pourrait produire du son, même le son du battement d'ailes. Une chose peut-être comme ça, mais en tout cas c'est parce qu'il y a dans le Midrash, puisque le Midrash dit justement que HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait un silence complet, et à ce moment-là Veyatsa Hakol Anochi Hashem Elokecha, à ce moment-là est sortie la voix qui a dit Anochi Hashem Elokecha. Hachem a fait en sorte qu'il se taise, oui, il les a paralysés, disons. C'est l'œuvre divine, mais ce n'est pas la parole divine. Hachem s'est mis en scène. Oui, parce que sinon, il faudrait que tu intègres à ce que tu... Si tu veux parler en termes d'écriture, tu peux imaginer que tu écris sur une feuille qui n'est pas vierge. Bon, pardon ? Ou tu changes de couleur, ou alors tu vas intégrer dans ton dessin, dans ton écriture, dans ta calligraphie, tu vas intégrer les éléments qui figurent sur la page. Tu vas les récupérer en quelque sorte. Pardon ? Bien sûr, parce que c'est plus une écriture. C'est plus de l'écriture, puisque tu récupères de... C'est pas toi qui l'as écrit, en plus. Ou si tu l'as pas écrit dans ce cadre-là. Parce que même en imaginant que on te donne un claf sur lequel il se trouve qu'il y a l'alphabet, ou certaines lettres de l'alphabet distribuées sur le claf. Et toi, tu peux t'arranger pour ligner le claf de telle sorte que tu puisses par la suite écrire ce que tu as à écrire en récupérant les lettres qui sont déjà là. On pourrait très bien imaginer une chose pareille. Tu as une certaine distribution de lettres sur la feuille, et toi tu vas fabriquer les mots, et tu vas mettre les espaces et les interlignes, etc., de telle sorte que tu puisses écrire le texte que tu veux. Bon, ça pourrait, c'est un exercice qu'on peut faire, ça marche ou ça marche pas, mais peut-être que, évidemment, il faut que les lettres qui sont distribuées là soient des lettres qu'on puisse récupérer, ou telles quelles, ou alors on peut les intégrer à une autre lettre, bon, puisque les lettres sont souvent faites avec d'autres lettres. Donc on pourrait éventuellement récupérer des lettres pour en faire d'autres. Ben, disons, il faut que ça satisfasse certains critères. Mais maintenant, est-ce que ça sera kasher comme écriture? A priori pas. Pourquoi finalement le résultat est le même? Non, mais c'est un tzaddik qui a écrit les lettres. Pas un goy. Mais même si c'est un tzaddik, ça sert à rien. Le loup ne pouvait pas les manger non plus. Il intervient. C'est la Hashgacha, hein. Oui. Non, mais ça c'est. On dit que c'est l'égoïme qui. C'est, la, c'est Aristote, quoi. Il a créé le monde et puis. Non, il a. C'est une possibilité de. Lui, effectivement, il a une lecture un peu. Particulière. Oh, il ne faut pas de gêne. Le Midrash a dit comme ça. Oui, bien sûr. Dans la parchat de cette semaine, il intervient. Hein. L'histoire de Korach, Hachem va intervenir. On va s'arrêter là. On va voir ce qu'on peut faire puisque on va aller jusqu'aux vacances. On a encore combien de séances de Midrash? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, le
4?
Oui. Quelque chose sur 4 séances. Sur quelque chose sur 4 séances.
Vous faites confiance.
C'est difficile d'avoir après reprendre. Il y a quelqu'un qui a un sujet.